7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Nous allons parler de l'amitié aujourd'hui, aussi importante que l'amour ou presque, dans la vraie vie et dans les romans. Le best-seller international le plus récent, celui d'Elena Ferrante, est bien le récit d'une amitié. Les voisins, on attend vos témoignages sur ces amitiés qui peuvent nous transformer, avoir un réel impact sur notre vie. Rencontre, complicité, comment se tissent ces liens d'amitié? Quel est le secret d'une amitié durable? Doit-on tout dire à un ami au risque de le blesser? L'amitié comporte aussi des déceptions sans sentimentale, des trahisons. Alors comment expliquer que certaines personnes semblent toujours entourées d'amis sincères, fidèles, et puis d'autres complètement plongées dans la solitude? Et puis que faut-il penser des amitiés virtuelles sur les réseaux sociaux? Vous êtes déjà très nombreux à nous raconter vos histoires d'amitié avec vos messages WhatsApp audio postés sur les réseaux sociaux. Mais appelez-nous maintenant, dès maintenant, au 33 1 84 22 71 71. On a envie de vous entendre de vive voix. Je vous présente nos invités. Saverio Tomasella, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste et vous avez publié Ces amitiés qui nous transforment aux éditions Erol. Benjamin Fabre, bonjour.
Bonjour.
Vous écrivez sur le travail, vous êtes un ancien consultant dans les grandes entreprises, vous êtes passé à l'humour. C'est un lieu où on peut se faire aussi des amis en dehors de gagner sa vie, encore que c'est la grande question. Et vous publiez « Comment triompher au bureau, petit manuel de manipulation professionnelle ». C'est du deuxième degré évidemment. En fin d'émission, « L'Afrique qui gagne », portrait de Saron Meshaleh, étudiante et entrepreneuse éthiopienne. Éthiopienne, effectivement, elle vend des produits alimentaires aux Américains sans gluten. Il fallait y penser pour faire du business. Je vous lis quelques messages Facebook. Joe nous dit qu'on peut rencontrer des amis dans diverses circonstances. Le boulot, le coup de foudre, l'école. Mais les amis se comptent sur les doigts de la main. On ne peut pas avoir 7 milliards d'amis. Edima est à Yaoundé au Cameroun et il dit « Quand on a les moyens, on a plein de faux amis ». Mais dès qu'on chute, tous ses amis vous abandonnent. Moralité, on reconnaît un véritable ami dans les temps difficiles. Lilia est à Toronto, Canada, et elle dit que les vrais amis, on se les fait petits à l'école et puis à l'université. Parce que c'est le temps de l'insouciance et de la sincérité. Et puis plus tard, quand on se marie, on a des enfants, on peut plus se faire de vrais amis parce qu'on s'installe dans un système de compétition, de rivalité. Alors, à qui la meilleure réussite sociale, nous dit Lilia, la meilleure carrière, les meilleurs enfants, et en plus, ces soi-disant amis que l'on se fait à l'âge adulte sont aux abonnés absents quand on a besoin d'eux. C'est pas un tableau très rose, ça. Benjamin Fabre, vous confirmez ou pas pour le milieu du travail? Quand on est passé dans le milieu du travail, ce ne sont pas les vrais amis à côté de ceux qu'on peut avoir à l'université, à l'école.
C'est vrai qu'a priori, le milieu du travail, c'est pas très compatible avec l'amitié, parce que l'amitié, c'est quelque chose de, c'est un peu le meilleur truc qui puisse nous arriver. Mmh. L'amitié, quand on fait le bilan, c'est complètement désintéressé, c'est gratuit, c'est beau, alors que le milieu du travail, c'est pas vraiment un truc gratuit, c'est pas vraiment un truc désintéressé. Donc sur le papier, c'est pas vraiment compatible.
Une vraie question en tout cas, que penser des amitiés tardives, sans passé, sans histoire commune? C'est ça aussi la question que pose Lilia.
Oui, je pense qu'il y a des amitiés à tous les âges, depuis la crèche jusqu'à la maison de retraite, et même parfois dans les hôpitaux, dans les services de soins palliatifs. Donc l'amitié, c'est vraiment, je pense, notre désir le plus profond, de trouver des amis et d'avoir des personnes à qui se confier. Alors peut-être pas au travail, mais quel que soit l'âge, à mon avis, c'est tout à fait possible.
Heureusement qu'il y a d'autres occasions de se faire des amis. Fidélis est à Antananarivo, à Madagascar, et lui, évidemment, il a été trahi par un ami, et depuis, il ne fait plus confiance. J'ai un seul très bon ami, fidèle, depuis des années, mais malgré tout, je mets toujours des barrières, nous dit Fidélis. Je préfère qu'on n'en sache pas trop sur ma vie privée. Voilà, les voisins nous parlent surtout de la face sombre de l'amitié, ça peut sembler étonnant. Appelez-nous aussi pour nous dire ce que vous procurez, comment vous a transformé l'amitié au 33 1 84 22 71 71.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, entre nous là, entre les voisins. Hein ?
Mais tout de suite, écoutez le témoignage de Lola, elle a 28 ans, c'est une Nantaise qui vit aujourd'hui à Paris. Elle raconte son amitié avec son alter ego, Loïc. Récit d'une amitié indéfectible et d'une complicité intellectuelle au micro de Alice Milo.
J'ai rencontré Loïc au lycée, on était dans la même classe en première et en terminale. Et on s'est rapprochés en classe de terminale puisqu'on était assis à côté en cours de philosophie. Et le professeur n'était pas très bon, donc on bavardait beaucoup et on faisait des bêtises. Et on s'est rendu compte qu'on s'entendait bien. Sachant qu'en terminale, il y a aussi le mouvement du CPE, contre le CPE. C'était une loi pour instaurer un contrat première embauche. Donc si je me rappelle bien, l'idée c'était qu'on embauchait des jeunes, mais qu'on pouvait les licencier sans raison.
Et donc dans votre lycée, en l'occurrence, il y a eu une mobilisation forte ?
Oui, très forte, ce qui était assez rare parce que c'était un lycée du centre-ville de Nantes. Donc le lycée a été bloqué pendant 15 jours. Et là aussi, on s'est trouvé des points communs au niveau de la politique, des idées, de l'engagement. Et donc tout ça a fait que on se voit encore aujourd'hui, plus de 10 ans après.
Et pourquoi ça a renforcé votre amitié ?
Parce que je pense que c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un de mon âge avec qui je partageais tant de points communs sur la vision de la société, la vision du monde, les injustices, etc. Donc on n'était pas que tous les deux à manifester, il y avait d'autres amis. Mais avec Loïc, je me suis rendu compte que ça pouvait perdurer.
Comment vous le décririez, Loïc ?
Il est très intelligent, il lit beaucoup, il réfléchit beaucoup. Mais il a parfois un côté un peu péremptoire de « j'ai beaucoup lu, je sais ». Et ce qui peut être parfois être agaçant parce que du coup, moi j'ai envie de lui dire « oui, tu sais, mais écoute aussi moi ce que j'ai à dire ». Et en plus, tu es professeur, donc je n'ai rien contre les professeurs, mais finalement, il n'a jamais quitté les bancs de l'école. Il n'a jamais eu comme moi à chercher un boulot, à enchaîner les CDD, etc. Quand on débat, ce qui nous arrive fréquemment, parfois on n'est pas d'accord. Et ça m'exaspère parce que je trouve ça très vexant que l'une des personnes avec qui j'ai le plus de points communs, ne soit pas d'accord avec moi. Je lui dis, mais comment c'est possible ? Pourquoi il ne voit pas ça ? Pourquoi il ne le comprend pas de la même manière ? Du coup, quand on n'est pas d'accord, ça me force à réfléchir, ça me force à aller plus loin, à me dire, mais est-ce qu'il n'a pas un peu raison ? Qui a tort ? Etc. Donc ça me pousse à lire, à réfléchir, à discuter avec d'autres gens. Et pour ça, oui, je peux que le remercier, parce qu'en fait, c'est un enrichissement, même dans la contradiction. Je me souviens, on a vu un débat, par exemple, sur les tampons, où moi, je lui disais, mais si les tampons, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est quand même globalement parce que ce sont des hommes qui font les lois et qu'ils s'en fichent, en fait, de ce que nous, les femmes, on va mettre dans notre corps. Mais lui, il n'était pas du tout d'accord. Il disait, mais n'importe quoi, c'est juste parce que c'est les multinationales et ce serait pareil avec n'importe quel autre produit. Oui, ça m'exaspère parce que je me dis, mais bon, déjà, qui a tort, qui a raison ? Ça me met le doute. Le doute, c'est toujours bien pour avancer au niveau critique. Ensuite, si je me dis, mais non, mais c'est vraiment moi qui ai raison, je me dis, mais comment il peut se voiler la face à ce point-là ? Donc oui, ça me gêne beaucoup quand on n'est pas d'accord. Ça m'énerve, ça se joue au fond, dans le ventre, quoi. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible.
Pourquoi c'est grave que vous soyez pas d'accord ?
Comme je pense que je le vois comme un reflet de moi, du coup, je me dis, mince, mais si on n'est pas d'accord, ça veut dire que du coup, comme si le miroir se déformait, quoi. Le miroir est cassé, donc moi maintenant, qu'est-ce que je deviens ? Est-ce que c'est lui qui s'est trompé ou est-ce que c'est moi ? Quel chemin maintenant j'emprunte ? Puisque je n'ai plus l'un de mes doubles, j'en ai d'autres. Mais lui, c'est un de mes autres moi très important.
Mais parce qu'il faut se ressembler pour être ami ?
Je pense qu'avec Loïc, si on a une amitié si forte, c'est parce qu'on se ressemble beaucoup. Après, j'ai construit des amitiés avec des gens qui me sont complètement différents. Mais avec Loïc, je pense que c'est ça qui caractérise notre lien, c'est la ressemblance et le partage d'idées.
C'est assez surprenant ce témoignage, Saverio Tomasella, parce que elle pourrait aussi parler d'une rencontre amoureuse d'une certaine manière, non ? C'est une amitié mixte, fille-garçon. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Alors déjà, ça m'évoque que l'amitié fille-garçon, homme-femme est tout à fait possible, contrairement à un préjugé trop tenace, parce que on peut apprécier quelqu'un sans avoir de désir sexuel, d'appétence sexuelle pour elle ou pour lui, et dans ce cas-là, ça permet une amitié et les sentiments peuvent être extrêmement forts. Par ailleurs, là, elle explique bien que finalement, cet homme est un peu comme son double masculin, et c'est pour ça qu'elle a tant de mal à accepter les désaccords, alors que beaucoup d'amitiés se constituent au contraire sur des dissemblances, et dans ce cas-là, on sait, on sent que de toute façon, on ne sera pas forcément d'accord, mais que ce n'est pas grave.
Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les amitiés entre filles et entre garçons, ou pas aujourd'hui ?
Alors, pour ma part, je pense que non. Dans ma pratique de psychanalyste et de psychothérapeute, je ne vois pas de différence. Et je pense même aujourd'hui qu'il est temps d'arrêter de parler de ceci pour les femmes et de cela pour les hommes, parce que ça nourrit la guerre des genres et qu'à mon avis, on est tous très différents, quel que soit le sexe anatomique qu'on porte.
Et en ce qui concerne, par exemple, une perte d'amitié, la souffrance est la même, le miroir qui se brise, comme le disait Lola, c'est la même histoire, c'est la même tristesse d'une certaine manière.
Oui, tout à fait, parce que l'amitié, c'est de l'amour. C'est de l'amour sans sexualité, donc c'est de l'amour et le cœur est brisé quand quelqu'un nous trahit.
En tout cas, de l'affectif.
C'est de l'amour. ne faisons pas des tabous. L'amitié, c'est de l'amour sans sexualité. Donc, comme c'est de l'amour, le cœur peut être brisé.
Comment naît l'amitié ? Alors, coup de foudre, expérience traversée ensemble qui va nouer quelque chose. Comment ça démarre, l'amitié ?
Ça démarre souvent fort, mais pas tout le temps. J'ai repéré trois formes de début d'amitié. La première forme, c'est le vrai coup de foudre. Il y a des coups de foudre amicaux à tous les âges. Quelque chose chez quelqu'un va nous plaire, va nous attirer, on a envie d'être en relation. Sinon, il y a des amitiés qui commencent dans la durée, qui vont être, je fréquente quelqu'un, que ce soit au travail, ça arrive, même si c'est rare, ou dans un club, ou dans une activité de loisirs, ou dans un voisinage. Et petit à petit, cette personne va me sembler intéressante et je m'en rapproche et nos discussions me prouvent que cette personne est importante pour moi. Une amitié naît comme ça. Et la troisième façon d'entrer en amitié, c'est la confrontation. C'est-à-dire que le conflit permet tout de suite de savoir à qui on a affaire en face de soi et d'être d'emblée dans une forme de franchise.
Ouais. Souleymane a un témoignage d'ailleurs un peu de ce type-là. Mon pire ennemi, nous dit Souleymane, il est au Burkina Faso, est devenu mon meilleur ami. On se détestait à l'école primaire, mais un jour on s'est rendu compte qu'on prenait le même chemin pour aller à l'école et en se parlant de fil en aiguille, on est devenus les meilleurs amis du monde. L'amitié ne naît pas tellement de la confrontation au travail, je pense, Benjamin Fabre.
Non, je voulais faire allusion au témoignage qu'on a entendu juste avant,
de Lola,
où il expliquait que c'était soudé dans une adversité commune qui était un combat politique, en fait, contre le CPE, ça date pas d'hier, mais bon. Au travail, on a pas mal d'adversités qu'on partage. Un patron insupportable, un quotidien qui est douloureux. Et c'est un bon contexte quand même pour souder des relations, parce qu'on se serre les coudes et puis on partage quelque chose en commun.
D'où la clé du management, diviser pour mieux régner, qui continue largement d'être appliquée d'ailleurs, non ?
Qui continue d'être appliqué. J'ai connu
bien
des gens.
Bien que les managers s'en défendent.
Non, et les bons stratèges, enfin les bons au sens un peu perfide du terme, n'hésitent pas effectivement à faire en sorte de casser des amitiés quand ils les voient menaçantes.
C'est ça, les amitiés
c'est
sont
la réalité.
Voilà, ouais. Menaçantes pour les managers. Ouais. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle de l'amitié. Parlez-nous de ces aventures amicales que vous avez connues, que vous connaissez toujours. On donne la parole à Dimo qui nous appelle de Libreville au Gabon. Bonjour Dimo.
Bonjour.
Dimo, alors vous avez toujours une bande d'amis aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, je crois.
Hein. Exact. Non, c'est connu à l'université, en première année lettres modernes. Donc on faisait nos devoirs de groupe ensemble et 10 ans après, on est toujours amis. On est un groupuscule.
Oui.
Donc, il y a 2 qui sont en France maintenant, mais on a créé une plateforme sur WhatsApp où on se dit tout, on a le temps de se retrouver en soirée, entre midi et 2. En fait, on ne voit pas la distance.
Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire que vous vous parlez tous les uns et les autres, les unes et les autres, tous les jours. Il n'y a que des filles dans cette bande, il n'y a que des filles, il y a des garçons ?
Non, on est 7 filles et 1 garçon.
Ah ouais, d'accord. Et c'est vraiment une relation d'amitié durable, mais vous diriez que à quoi ça tient cette durabilité dans l'amitié ? Parce qu'aujourd'hui, vous ne partagez plus les mêmes choses.
Non, on ne va pas dire qu'on ne partage plus les mêmes choses. On va plutôt dire qu'on ne partage plus les mêmes occupations.
Oui.
Ah. Voilà, et on se doit, on ne va pas dire des pactes, mais plus qu'on parle franchement. Si on sent qu'il y a un qui se détache, on dit « Mais attends, on n'a plus de tes nouvelles, qu'est-ce qui se passe ?» On le chahute. Et là, après, il donne des explications qui tiennent la route et il essaie de rectifier le tir en étant plus présent sur le forum.
Et alors, vous dites qu'on ne partage plus les mêmes occupations, mais on partage les mêmes choses. Alors, c'est quoi le ciment de cette bande d'amis ?
Le ciment, c'est que la bande d'amis, elle est née au départ dans l'insouciance. Dans la franchise, parce que quand on est à l'université, on se bat pour les notes, on se bat pas pour qui va travailler dans telle administration, qui se rachète, qui aura plus d'argent. On a un objectif, c'est de réussir, donc on a cette entraide-là. et qui aujourd'hui ne s'est pas effritée. Dans notre groupe, il y a un enseignant, les deux autres sont en France, nous ici on se bat au Gabon, mais on se soutient moralement, on parle de tout et de rien. Ceux qui sont au Gabon, on se retrouve quand ils peuvent le faire, on va manger, on va danser.
Ben c'est une belle histoire, Dibo, votre histoire d'amitié, cette bande de filles et de garçons. Voilà, ça c'est de l'amitié de groupe, hein. C'est ce qu'on pourrait appeler, oui c'est ça, c'est la bande, Saverio.
Le clan. Hein.
Le clan.
Oui, tout à fait, hein, c'est la deuxième famille. La bande d'amis est importante aussi pour se sentir bien, être soutenu et puis bénéficier d'une dynamique de groupe.
Est-ce qu'on a la même intimité d'ailleurs dans une bande qu'en face à face, à deux?
Souvent non, parce que c'est vrai que la relation à deux permet de parler de façon plus profonde et plus intime, effectivement plus authentique, mais parfois il y a des bandes d'amis où on peut vraiment dire les choses de façon très, très franche, et notamment quand ce sont des bandes d'amis qui sont construites comme ça à l'adolescence.
Merci Dimo en tout cas de nous avoir appelé à Libreville. Je vous redonne notre numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Richard est à Lubumbashi dans le sud de la République démocratique du Congo. Bonjour Richard.
Bonjour Emmanuel.
Alors Richard, vous avez vécu à l'extérieur du Congo et vous avez une analyse assez particulière sur le contexte favorable à l'amitié, je dirais.
Exactement Emmanuel.
On vous écoute.
En fait, j'en ai fait une étude personnelle. L'expérience vécue à l'étranger dans des pays en développement et les pays sous-développés. Comme la RDC, là où je vis actuellement. Mais j'ai passé un bon moment en Afrique du Sud, comme en Tanzanie.
Oui. Donc des pays qui se portent mieux économiquement, politiquement, mais quel rapport avec l'amitié?
Oui, effectivement, l'état du pays affecte même la vie sociale de personnes. Des citoyens.
Oui, pourquoi vous dites ça?
Vu mon expérience, les amitiés que j'ai pu rencontrer en Afrique du Sud comme en Tanzanie sont des amitiés qui ont été vraiment franches, intelligentes, compétitives sur le plan professionnel.
Oui.
Comparativement à ce que nous vivons actuellement... ici en RDC.
Oui, alors allons droit au but. Quel est le problème en RDC? Vous semblez dire que c'est compliqué de se faire de vrais amis en RDC, mais pourquoi?
Non, vous savez, la situation sociale affecte même les systèmes amicaux. Vous vous retrouvez, vous êtes entouré des personnes avec lesquelles vous n'avez pas totalement confiance. Si on peut mettre une barre de 10, la confiance est à 5. Même pas à 5, on peut aller même à 3.
D'accord.
Vous voyez. Donc, nous sommes vraiment limités sur ces points-là.
Et pourquoi vous avez le sentiment que dans votre pays, avec les difficultés actuelles, on ne peut pas avoir confiance? On est bien d'accord que la confiance, c'est la base de l'amitié.
Oui, la vie sociale... Par peur d'échouer, parce qu'on n'est pas sûr de son avenir, vu le système sur place, il y a des amis qui vous haïssent sans raison. Sur le plan professionnel, même au travail, vous ne pouvez pas vraiment avoir de bonnes amitiés. Ce sont des amitiés qui sont périodiques et basées sur des intérêts. Une fois que vous ne savez pas répondre à des histoires gens, vous connaissez une fuite. Donc vous serez délaissé.
En somme, c'est ce que vous décrivez, c'est un peu une société du chacun pour soi, hein, finalement, si j'ai bien compris, Richard. Hein.
Exactement. Exactement. On ne se fait plus confiance, on n'approche plus quelqu'un dans sa maison facilement.
Bon, eh bien, écoutez, c'est votre description, c'est votre sentiment, c'est votre analyse. Hein. Bien évidemment, si vous n'êtes pas d'accord et que vous habitez dans le même pays, vous pouvez nous appeler. Richard, merci beaucoup de nous avoir appelé. Mais c'est, je ne sais pas ce que vous pensez du contexte social. Est-ce que vraiment ça peut avoir une influence sur l'amitié? Quand on a voyagé, on peut avoir l'impression qu'il y a des pays où la société est faite, construite de telle manière que les amitiés sont plus compliquées. Saverio.
Oui, il y a des contextes sociaux et politiques où effectivement on ne peut plus se confier librement parce qu'on sait que ça peut être utilisé contre nous un jour quand il y a des rivalités très fortes entre certains clans, notamment en Afrique, ou des positions politiques qui peuvent nous être reprochées. Donc dans ce cas-là, on n'a plus cette liberté qui permet d'être facilement amis. Mais sinon, effectivement, il y a des cultures comme la culture méditerranéenne, par exemple, qui favorisent l'amitié. Alors je ne connais pas encore assez bien l'Afrique subsaharienne, peut-être que c'est le cas aussi. Il y a des cultures qui favorisent l'expansion, l'expansivité, le fait de dire aux gens « tu es important pour moi, je t'aime, j'ai envie de passer du temps avec toi », etc. Et d'autres cultures qui sont plus dans la réserve.
Ouais. Exactement, ce que ne favorise pas le travail d'ailleurs, hein, ou a priori on ne favorise pas l'expansion, hein. On est plutôt dans le self-control.
Contrôle des émotions, mais c'est un peu en train de changer.
On a fait une émission il n'y a pas très longtemps sur le contrôle des émotions et du travail.
Oui, mais il y a quand même un espèce de discours, mais c'est surtout du discours qui consiste à dire il faut laisser rentrer l'émotion dans l'entreprise, on a le droit de parler du bonheur en entreprise, on parle de convivialité. Ça peut être des bases intéressantes pour nouer des relations, mais comme le disait cet auditeur en faisant... Oui. Ça reste quand même sous contrainte, ça reste...
Et Richard disait, on a des amis au travail quand on a les mêmes intérêts.
Oui, et puis tout ça peut changer, puis les situations évoluent très vite en entreprise.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71, on balaye tous les spectres de l'amitié, un sentiment universel. On donne la parole à Toumka qui est à Nouakchott, dans la capitale mauritanienne. Bonjour Toumka, soyez la bienvenue.
Emmanuel, vous allez bien?
Eh ben, très bien, on est ravis de vous accueillir en direct. On vous écoute, Toumka.
Ben, c'est un plaisir.
Ben, pour nous aussi, partager.
C'est comme je viens de le dire dans le texte que je vous ai envoyé. C'est pour parler de l'amitié et de la sincérité qu'il y a dans tout ce qu'englobe ce mot. Mm-hmm. Oui, parce que je me suis dit que c'est pas celui que l'on connaît depuis longtemps, mais celui qui est venu et qui est entré dans votre vie et qui vous dit que je suis là pour vous à tout moment.
Oui.
Je suis là pour vous aider, je suis là pour vous épauler dans les bons et dans les mauvais moments. C'est là qu'on peut connaître vraiment la sincérité qu'il y a dans le mot qu'il y a dans l'amitié.
Oui.
Et c'était pour finir quand j'ai fait une dédicace à mon amie. Elle est à Paris, donc on s'est connus en 2006.
Oui.
Nous avons fait nos études ensemble après la maîtrise et elle est partie continuer ses études en France.
Oui.
Mais c'est comme si on ne s'est pas séparés. En fait, on est en contact chaque jour, on se parle tous les matins.
Oui.
Et la plus belle chose qu'elle a faite, c'est devenu un truc de famille. Nos parents se côtoient, maintenant nos parents se connaissent et se côtoient. Oui. Et la chose qu'elle a faite pour moi, c'était qu'elle a fait un déplacement lors de mon mariage.
Oui.
Elle m'a fait une surprise.
Formidable.
Elle a fait une surprise pour moi. À deux jours avant mon mariage, elle débarque à la maison. Donc ça, c'est une chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marquée. Donc, pour moi, c'est ça vraiment l'amitié. Elle aurait pu ne pas venir, c'est vrai. Elle aurait pu peut-être dire, je vais juste lui envoyer un cadeau et tout. Mais elle a fait le déplacement de Paris à Rochette.
Bon, peut-être donc, qu'elle vous vraiment... écoute. Peut-être qu'elle vous écoute en ce moment, si elle vit en région parisienne,
Toumka. Donc, elle, c'est Aïssata Siddiqiba, depuis Paris. Oui, voilà. Elle vraiment, elle sait ce que c'est l'amitié. Elle sait que c'est l'amitié, donc par ce message, je voulais lui dire. Elle lui réitérait encore mon amitié envers elle.
Ouais, une amitié vraiment indéfectible, hein, c'est ce que vous décrivez.
Oui.
Et ce n'est pas si courant que ça, finalement, hein, ces amitiés qui durent depuis des années et des années. Merci, Toumka, de nous avoir appelé. Et surtout, ce sentiment que, malgré l'éloignement, quand on se parle, c'est comme si on s'était vu la veille, où l'éloignement géographique n'a pas de prise, finalement, Saverio.
Oui, c'est vraiment un bon signe de l'amitié, c'est ne pas se voir pendant un certain temps ou habiter très loin et puis sentir que finalement on est proche, c'est-à-dire que ce contact d'être, ce contact d'âme, il va dépasser les difficultés ou les contraintes géographiques ou physiques. Et puis il y a aussi cette générosité dont elle parle et qui est très très importante parce que là on voit vraiment que l'amitié véritable est désintéressée.
Est-ce que l'amitié peut participer à nous grandir finalement, à ce qu'on devienne meilleur grâce à l'autre?
Moi, je pense que oui. Je pense que si c'est vraiment une amitié, c'est un sentiment noble et ça nous grandit. Ça nous grandit dans certaines circonstances où on se rend compte vraiment de ce que l'autre nous apporte, mais aussi de cette générosité qu'on peut avoir, parfois complètement spontanément et sans aucun calcul, en donnant quelque chose, en apportant quelque chose à l'autre.
Je pense que c'est encore plus que ça. C'est-à-dire que c'est complètement vital. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette étude qui a été faite par Harvard, qui a été publiée il y a un ou deux ans, qui expliquait c'est quoi quand on regarde une vie sur 75 ans, les facteurs qui font qu'on est heureux ou pas, ils ont analysé plein de critères, la situation économique, le machin, la familiale. Et en fait, c'est la qualité des liens, la réponse. Plus les liens sont de bonne qualité, et plus on est heureux. Donc, voilà. Donc l'amitié ne peut
la
que...
La famille, les voilà. Amis. Alors, vous nous le disiez, Benjamin Fabre, le travail, bon, c'est aussi, c'est vrai, un lieu de sociabilité, mais à quoi peut ressembler l'amitié au travail? Parce qu'aujourd'hui, vous le disiez, le management a absolument envie de promouvoir une forme de convivialité. Alors, est-ce que c'est du faux, du vrai?
Il y a des amitiés qui peuvent naître... Prenons un exemple, l'exemple des activités de team building. Les entreprises adorent organiser des activités dans lesquelles on rassemble les salariés, on les sort du bureau, on les sort du contexte et on les met dans un contexte festif, joyeux, où on va partager des bons moments pour essayer de souder les liens.
Donc généralement tout le monde est en jean, t-shirt et basket,
tout le monde est très décontracté. Parfois on boit un petit coup, parfois même plus. Et puis ça m'est arrivé une fois, je me suis retrouvé à côté de mon patron.
C'est très drôle parce que vous le mimez très bien.
Oui.
En même temps, on est sur la réserve.
Oui, on est sur la réserve, mais au bout d'un moment, on arrive à faire tomber la réserve. Admettons que ça arrive quand même parfois. Et je me suis retrouvé dans une soirée avec mon patron. On était l'un à côté de l'autre et j'ai senti que là vraiment la glace était fondue quoi. Il a commencé à se confier, à me dire des choses. Je me dis ça y est, je suis en train de m'en faire un ami. Et le lendemain à 9h, on s'est retrouvé en réunion, cravate, on est reparti comme si de rien n'était. Peux-tu s'il te plaît me faire part de tes conclusions sur ces différents. Voilà. Donc c'était complètement éphémère, c'était une parenthèse et hop, le corsaire reprend ses droits dès le lendemain.
Le portrait robot du super copain ou de la super copine au boulot, ça serait quoi alors finalement?
Mais je ne sais pas si c'est bien d'être le super copain de service. Là, il y a eu la Coupe du Monde il n'y a pas très longtemps, et vous avez toujours dans les bureaux le mec qui s'occupe d'organiser les paris pour savoir qui va gagner. Je ne sais pas si c'est très bon d'avoir cette étiquette-là, d'être le gars sympathique et convivial, parce que voilà,
qui
c'est
met de
le gars.
De la bonne humeur, de l'humour.
Oui, c'est bien. Il est sympathique, il est gentil, quoi. Mais est-ce que on va compter sur lui pour lui confier, par exemple, une nouvelle filiale ou voilà, pour en termes de stratégie de carrière et d'image, je ne sais pas si c'est très bon d'être le bon pote de service.
Est-ce qu'on peut bosser entre amis? Est-ce qu'on peut monter un business avec un ami?
Bien sûr. Moi, je pense que c'est complètement neutre, être ami ou pas. Pour moi, ce n'est pas du tout un facteur de succès ou d'insuccès. Pour le business. Non, pour mon avis, c'est neutre. Par contre, ce qui me paraît important à prendre en compte, c'est qu'on risque une amitié dans cette histoire. C'est beaucoup plus grave que de risquer un échec dans le business.
Vous avez rencontré parmi les gens qui viennent vous demander de l'aide, Saverio Tomasella, des trahisons en amitié à cause du travail, à cause d'une forme de compétition.
Oui, l'amitié peut effectivement être mise à mal par un moment où des décisions doivent être prises sur le plan financier, par exemple, et les options ne sont pas les mêmes pour les deux amis, les deux personnes qui sont en amitié. Et effectivement, parfois, les époux, les épouses ou les proches poussent l'un dans un sens et finalement, ça peut ruiner une amitié. Mais il y a aussi des trahisons amicales en dehors du milieu professionnel quand un ami va révéler quelque chose de confidentiel ou de très intime concernant l'autre, ou quand un ami ou une amie va préférer une autre amitié que celle qui existe là.
Allez, on repart au standard 33 1 84 22 71 71, vos meilleurs amis, IES également bien sûr. Il y a aussi des gens qui ont le génie pour mal s'entourer, ce que dit l'entourage aussi, pour avoir des amis qui ont mauvaise influence, qui a tellement à dire sur l'amitié. On donne la parole dans quelques instants à un voisin.
7 milliards de voisins, de voisines, 7 milliards d'êtres humains, tous identiques, tous différents, appelés à vivre sur une toute petite planète, 7 milliards de frères et de sœurs.
Claude est en ligne avec nous de Pointe-Noire au Congo-Brazza. Bonjour Claude.
Oui, bonjour.
Alors vous... Oui, on est ravis de vous accueillir. Claude, où en êtes-vous, vous, avec vos amis?
Avec les amis que j'ai, c'est plutôt bien. Je les appelle presque une fois la semaine.
Ouais.
Et je disais à l'antenne que la plupart, je les ai connus quand j'étais à la fac. Les premiers, je les ai connus à la fac. Rester comme des relations, moi et moi des amis. Donc, ce que j'ai connu à la fac, c'est que nous avions les mêmes ambitions et nous travaillons de la même manière, donc on s'organise de la même manière. Et puis, nous sommes donc 12 ans, 13 ans plus tard.
C'est ça. Et ensuite, vous vous êtes fait des amis au travail. Je crois que vous avez été expatrié en Malaisie, c'est ça, Claude ?
Oui, c'est ça.
Et c'était pas la même chose pour vous ?
C'est des amitiés. Enfin, le lien, aujourd'hui, le lien est très fini. Hein, c'est des amitiés fortes.
Oui.
Mais c'était un contexte différent. C'est d'abord une forme de, on va dire, j'étais vraiment placé un manque parce qu'étant seul à l'étranger, j'étais célibataire.
Oui.
Et puis c'était pareil. Ensuite, on a formé comme une petite communauté.
Oui, voilà, on se serre les coudes, bien sûr.
Voilà. Et c'est, pour moi, je les considère plus que des frères. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se voit plus. Mais à la moindre occasion, on passe les vacances ensemble. Et on s'appelle toujours, on les passe tous les jours. C'est écrit sur WhatsApp, mais le lien.
Et vos amis d'université, finalement, Guy Marcel, ce sont des amis qui vous ressemblaient, dans le même milieu, des familles qui se connaissaient. C'était un peu la suite de l'enfance, non ?
Non, pas du tout.
Pas du tout ?
C'est cool. On s'est connus carrément le jour du concours d'entrée à l'Institut.
Oui.
Parce que nos noms commencent par ordre alphabétique, enfin, étaient par ordre alphabétique, donc on s'était assis à côté des autres. Et le jour de la rentrée des classes, on s'est retrouvés.
Ouais.
Et ça a été ça le premier contact. Mais avant, on ne se connaissait pas.
D'accord.
Pas,
ah, c'est une bande pas. Qui s'est constituée grâce à l'alphabet, un peu. C'est,
voilà.
C'est extraordinaire.
Merci l'alphabet.
Ouais. Parmi tous mes amis, pour moi, le premier critère, c'est la parole donnée, la confiance. En général, si aujourd'hui j'ai gardé ces amis sans très peu, c'est juste parce que pour moi, l'amitié d'abord, c'est le fait du respect de la parole donnée. Parce que quand on enlève ça, l'amitié n'existe plus. Il ne faut pas compter ça.
Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à pardonner à celui qui déroge cette règle, si j'ai bien compris, Guy Marcel. Hein.
Non, l'un de... je pardonne très facilement. Mais le problème, c'est que pour moi, je suis quelqu'un d'assez introverti. J'aime pas, j'aime pas exposer ma vie au monde. Donc pour moi, ceux qui parlent à mon intimité... C'est vraiment très bref. Ça n'a rien à voir avec le pardon, la rancune. C'est juste que...
C'est la confiance. Ouais, il ne faut pas que la confiance soit rompue. Merci beaucoup, Guy Marcel. Alors, l'amitié, ça ne signifie pas forcément... Là, tout le monde nous dit beaucoup qu'on peut tout se raconter. Mais est-ce que c'est... Il y a une amitié qui ne signifie pas forcément intimité, où on ne se raconte pas forcément tout, ou pas, finalement, Saverio Tomasella?
Alors, intimité, oui. Je pense qu'il y a un partage d'intimité qui grandit avec le temps. Mais effectivement, pas forcément par la parole, parce qu'il y a des amitiés dans le silence. Il y a des personnes qui parlent peu, mais qui vont passer du temps ensemble pour se promener, pour faire une activité sportive ou de loisir ou artistique ou politique, et qui ne vont pas forcément confier beaucoup de choses sur elles, mais passer ce temps ensemble et finalement se connaître. Parce que le fait de se voir vivre et de faire des choses ensemble sur plusieurs années fait qu'on finalement on partage une forme d'intimité.
Nous repartons au standard 33 1 84 22 71 71. J'ai appelé Claude Guy Marcel. Je m'en excuse auprès de Claude qui nous appelait de Pointe-Noire. Maintenant, c'est vraiment Guy Marcel qui nous appelle de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Bonjour Guy Marcel.
Oui, bonjour, c'est Pierre Voisin, bonjour aux auditeurs de la RFI.
Alors, vous vous interrogez, Guy Marcel, sur finalement les années qui passent et où l'amitié n'est pas si simple au fil des années, non, je crois?
Oui, c'est ça.
Vous êtes un peu nostalgique, j'ai l'impression.
Oui, un peu nostalgique, mais la famille, le boulot, les enfants font changer les choses, donc on est obligé de faire avec.
Ah oui.
Moi, mon cas dans l'adolescence jusqu'au jeune âge, avant que je n'aie du boulot et rencontrer ma femme actuelle, avec des amis toute la journée jusqu'à 22h, 23h. Le matin, on se réveille, on se retrouve, on bavarde, on mange. À midi, on rentre à la maison.
Ouais.
On ressort à 14h, on s'attrape, on cause jusqu'à 16h, on va jouer au foot.
Ah bah oui, bah c'est sûr, on a du temps à cette époque-là. Hein. Oui.
Justement. Donc, oui. L'amitié est très consolidée en ce moment. Mm. Le soir encore, on se retrouve 19h jusqu'à 22h et c'est la routine tous les jours. Maintenant, on rencontre une femme.
Et là, c'est pire.
Elle devient notre amie. Ouais, voilà. Là, on ne peut plus voir les amis. Il y a le boulot qui rentre en ligne de compte. Bon. Et puis, il y a l'enfant. Moi, j'ai un garçon de 6 mois.
Oui.
Donc voilà, je passe du temps avec lui, tout ça. Donc,
Non, mais ce que vous décrivez, vous savez, il y a quelques millions ou milliards de personnes qui le connaissent. Vous avez parlé à votre femme, Guy Marcel, de cette nostalgie que vous avez de ce temps perdu à l'époque avec vos amis?
Oui, c'est vraiment, c'était la belle époque. Parce qu'on a... On n'avait pas trop de soucis, c'était les amis, on partageait beaucoup de choses. Voilà, maintenant, bon, c'est madame qui devient l'ami fidèle. Hein. C'est à elle qu'on confie tout, c'est à elle qu'on explique tout. Et voilà, les amis, ça fait que c'est la distance, le téléphone, on n'arrive pas à se voir véritablement. Donc, ça fait que l'amitié est un peu...
Ouais. Votre femme est devenue votre meilleure amie, mais je ne sais pas si c'est totalement choisi, non?
Pardon ?
Vous semblez dire que votre épouse est devenue votre meilleure amie, mais je ne sais pas si c'est complètement choisi. J'ai bien compris que vous avez choisi votre épouse, mais le fait qu'elle doive assumer tous ces rôles-là, finalement, également un rôle de confidente et d'amie, parce que vous n'avez plus le temps de voir vos amis.
Voilà, oui, justement, si on a des amis qui prennent le dessus sur la femme,
elles n'aiment pas
quelque chose.
Elles n'aiment pas.
Voilà,
ouais.
La femme, voilà. Mais moi-même, c'est pas le fait que les amis prennent le dessus, mais c'est que en amour, il faut que la femme soit ton amie. Il faut qu'elle soit ta confidente.
Bon, merci voilà. Guy Marcel de nous avoir appelé. C'est vrai que l'amitié se pose un peu en concurrence quand même avec le couple ou pas?
Ça dépend des couples, mais c'est vrai que ça peut, hein, parce que effectivement, comme c'est un investissement affectif fort, il peut y avoir de la concurrence, et puis notamment, comme le disait ce monsieur, en termes de temps.
Non, mais des amitiés, il y a des amitiés qui sont très envahissantes parfois.
Oui, alors on peut ouvrir sa maison aussi, hein. On peut laisser les amis venir, même si on a une femme et des enfants, ou alors on les voit moins.
On a une dernière question, c'est une auditrice qui veut vous questionner. Jocelyne est à Kinshasa, bonjour Jocelyne.
Bonjour madame.
On vous écoute Jocelyne, vous avez une question à poser à Saverio Tomasella, la psychanalyste.
Oui, je voulais savoir comment entretenir une bonne relation d'amitié pendant longtemps en fait.
Parce que vous avez dit au standard que vous êtes timide et vous avez du mal à garder des amis longtemps, c'est ça le problème?
Oui, c'est ça le problème. Ouais.
D'accord, merci Jocelyne de nous avoir appelé.
Quel âge vous avez?
Jocelyne?
J'ai 29 ans.
Quel âge, j'ai pas bien compris?
29 ans.
29 ans.
29 ans.
Oh, oui. Tout est encore possible.
Ah ben oui, hein, oui. C'est difficile de vous répondre parce que je ne vous connais pas, mais simplement vous dire de consacrer du temps à vos amis, de leur exprimer des choses que vous avez envie de leur dire, de prendre des risques si vous êtes timide, des risques de rougir, des risques de pleurer, de rire, des risques de sortir un peu de vos habitudes, de votre routine. Et puis, si ça ne marche pas avec une personne, ça peut aller mieux avec une autre. Donc, ne vous découragez pas. Essayez. Faites des expériences d'amitié et voyez celles qui marchent le mieux.
Ça, c'est conseil pour les timides et puis pour ceux qui s'occupent que d'eux, hein, et éventuellement l'inverse, hein, c'est-à-dire être capable d'écoute et d'attention à l'autre.
C'est important d'écouter l'autre aussi, sinon on ne peut pas créer une amitié.
Est-ce que l'amitié, c'est un don, un talent, vous diriez?
Ouais, je pense, ouais. Il y a des gens qui sont très entourés, il y a des personnalités qui sont par exemple très entières et qui ont du mal à avoir des amitiés qui sont durables parce que va tout le temps y avoir des heurts, des conflits, des déceptions qui vont être tragiques. Il y a des gens qui sont plus ronds, qui vont avoir des amitiés qui vont pouvoir se suivre de manière assez tranquille. Ouais, je pense qu'il y a une espèce d'aptitude à l'amitié.
Et parfois d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut être envieux par rapport à ceux qui ont ce si grand talent d'avoir plusieurs amitiés très solides. En général, il ne faut pas se voiler la face, on a 2, 3, 4 très bons amis, ouais. Mais il y a comme ça des personnes qui ont ce don, je ne parle pas de l'amitié Facebook, hein, mais de la véritable amitié et multiple.
Oui, il y a des gens très doués pour l'amitié. Et on peut les envier, les envier dans le bon sens, ça veut dire j'ai envie de faire aussi bien, les envier dans le mauvais sens, ça veut dire je lui en veux d'avoir tant d'amis, et je vais lui en choper un, je vais en chourer un. Mais il y a aussi, chacun son style et son tempérament, on peut avoir peu d'amis et que ça se passe très bien et être très heureux comme ça.
Une réaction au témoignage qu'on a diffusé tout au début de l'émission de Dieudonné, qui est à Bujumbura au Burundi, qui nous dit l'amitié entre filles, garçons, moi j'y crois pas du tout, l'amour s'invite au fur et à mesure que vous vous rapprochez.
Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a, des amitiés filles-garçons qui ne donnent pas naissance à un désir sexuel. Et puis n'oublions pas qu'on peut aussi avoir du désir sexuel dans une amitié entre personnes du même sexe. Hein. C'est pas la peine de se voiler la face. Le désir sexuel est là et il existe dans tout type de relation.
Benjamin Fabre, vous publiez « Comment triompher au bureau ». Alors évidemment, c'est un petit manuel de manipulation professionnelle au deuxième degré. Et dedans, évidemment qu'on peut faire des rencontres formidables. Non ou pas?
Naturellement. Dans l'entreprise, on peut être surpris, on peut faire des rencontres. Mais il n'y a pas toujours un très grand brassage non plus dans les entreprises. Vous pouvez avoir des Sciences Po et des ENA. Bon, ça peut être...
Bon, ça dépend. Vous parlez pour les cadres supérieurs.
Oui, sinon... Non, mais c'est-à-dire qu'on remarque quand même qu'on se retrouve un peu entre semblables.
Oui, enfin là, vous parlez vraiment des cadres supérieurs dans les grandes entreprises. Le milieu du travail est quand même souvent un milieu où on rencontre des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés, si ce n'est peut-être pendant ses études, mais encore que. Hein.
Oui, enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a plutôt un espèce d'entre-soi qui se prolonge. Bon. On se retrouve entre gens.
Alors, c'est l'ancien diplômé des grandes écoles qui parle.
Oui, non, mais c'est vrai pour d'autres
Merci
d'autres
à
domaines.
Tous les deux, en tout cas. Saverio Tomasella, vous publiez « Ces amitiés qui nous transforment » aux éditions Erol, et Benjamin Fabre, « Comment triompher au bureau », petit manuel de manipulation professionnelle. Et merci à vous, les voisins et les voisines, pour vos témoignages. C'est vous qui faites l'émission, vous le savez, chaque jour en appelant le standard dans quelques instants, comme chaque lundi. L'Afrique qui gagne, portrait d'une jeune étudiante éthiopienne et inspirante.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Saron Meshal est étudiante et entrepreneuse éthiopienne. Elle a créé sa marque GoTef, des produits à base de teff. C'est la céréale qui est la base de la nourriture éthiopienne. À l'heure actuelle, elle étudie le business dans une université américaine et le marché qu'elle cible, les Américains qui mangent sans gluten, entre autres. Son portrait.
I grew up in a very middle class family.
Je viens d'une famille de classe moyenne, privilégiée. Dans mon enfance, je n'ai manqué de rien. J'ai fréquenté de bonnes écoles où j'ai appris l'anglais. C'est pour cela que je parle anglais couramment. Une personne a eu une influence très forte sur moi dans ma vie. C'est mon père. Il était en charge de la distribution nationale de l'aide alimentaire en Éthiopie pendant l'une des grandes périodes de famine de notre histoire, dans les années 2000. J'ai grandi en voyant tout le temps mon père à la télé. Il sillonnait l'Éthiopie pour aider à distribuer l'aide alimentaire internationale à cette époque. Et cela a contribué à faire germer en moi l'idée de mon projet d'entreprise. En Éthiopie, des millions de personnes ont perdu la vie lors de plusieurs grandes vagues de famine. Et c'est une menace qui continue de peser sur nous. Récemment, nous avons connu un autre épisode en 2017. Mais mon objectif, c'est de raconter une autre histoire de l'Éthiopie. Parce que nous ne sommes pas qu'un pays de famine et d'enfants malnutris. Nous sommes aussi un pays au développement impressionnant, avec l'une des plus fortes croissances économiques du continent africain. Depuis peu, nous faisons également de grands progrès en termes d'ouverture politique.
Et vous avez donc lancé GoTef, donc une entreprise autour du teff, qui est une céréale très importante en Éthiopie. Alors en quoi ça consiste et comment vous est venue cette idée-là?
Quelle autre meilleure façon pour changer ce récit d'une Éthiopie de la famine et de l'insécurité alimentaire que d'exporter cet aliment dans le monde? Un aliment que nous produisons en Éthiopie. Le teff a une valeur marchande très élevée, comme le quinoa. Et comme lui, il ne contient pas de gluten. Mais j'ai découvert qu'il existe un brevet de la farine issue du teff. Ce brevet est détenu par une entreprise néerlandaise depuis 2007. C'est choquant. Cette graine ancienne, nous la cultivons depuis près de 4000 ans. Nous la consommons tous les jours, matin, midi et soir. Et cette céréale nous est confisquée par un pays occidental. Ce brevet est reconnu par plusieurs pays européens, ce qui empêche nos entreprises éthiopiennes d'y exporter leur teff. À cause de cela, le gouvernement éthiopien a lancé plusieurs procédures judiciaires contre cette entreprise néerlandaise. Il y a actuellement une vraie bataille légale au sujet de ce brevet. Dans ce contexte, comme j'étudie le business aux États-Unis, j'ai lancé mon projet d'entreprise de TEF il y a un an, en visant le marché américain, et j'ai fait des recherches pour identifier le marché spécifique que je pouvais cibler là-bas.
Et alors, qui vont être, selon vous, les consommateurs qui vont acheter du TEF aux États-Unis?
Nos premiers consommateurs cibles sont des athlètes d'endurance, des sportifs même amateurs, qui veulent travailler leur cardio. La raison est simple, aux États-Unis, il y a actuellement un intérêt énorme pour les sports d'endurance, comme la course à pied, le triathlon, le cyclisme. Et puis ensuite, nous voulons toucher tous les Américains qui veulent être en bonne santé. Ceux qui mangent sans gluten, les véganes, les végétariens, et tous ceux qui veulent garder la ligne. Le TEF contient beaucoup de fer notamment.
Vous avez identifié votre marché, et maintenant, qu'en est-il des fermiers éthiopiens avec lesquels vous allez travailler?
Nous comptons travailler directement avec des fermiers, propriétaires de petites exploitations. L'Éthiopie en compte 10 millions qui produisent du TEF, dont c'est la principale culture. Mais aujourd'hui, l'injera, cette galette à base de TEF que nous mangeons en Éthiopie, est devenue presque un produit de luxe. Enfin, je veux dire, l'injera est 100% composée de TEF, sans autres céréales ajoutées. Parce que nous ne produisons pas suffisamment de TEF en Éthiopie pour satisfaire notre propre demande. Donc le prix de cette céréale est très élevé. Il augmente constamment. De 2015 à 2016, le prix du quintal, donc 100 kg de TEF, aurait augmenté de 55%. Nos fermiers aimeraient produire dans de plus grandes quantités, car ils savent qu'ils pourront tout vendre. Il y a une vraie demande. Alors ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous offrons aux fermiers avec lesquels nous allons travailler des pompes solaires d'irrigation. Ces pompes permettent, grâce à des panneaux solaires, d'extraire de l'eau en surface, venue des lacs environnants ou de l'eau souterraine. Grâce à elles, chaque ferme pourra voir sa production doublée, car il pourra y avoir désormais deux récoltes par an, au lieu d'une seule actuellement. La plupart des fermiers sont encore dépendants des pluies. Avec notre système d'irrigation, les fermiers pourront vendre plus de TEF à leur communauté et mieux répondre à la demande locale. Nous, nous comptons récupérer près de 20% de leur surplus grâce à nos pompes solaires pour l'exporter. Nous commençons déjà à travailler avec une première coopérative. Chaque coopérative rassemble 500 à 600 fermiers. Puis, nous nous étendrons dans la région Amara, au nord, ou dans la région Oromo, au sud, il y a de nombreuses plantations de TEF.
Et vous qui avez grandi plutôt parmi l'élite en fait, de la nation éthiopienne, est-ce que vous n'avez pas peur d'être en décalage avec les fermiers avec qui vous allez aussi traiter?
Je pense que quand on a grandi à Addis Abeba, dans une grande ville, quand on est allé dans de très bonnes écoles, c'est difficile de travailler avec une communauté qui n'est pas la nôtre. Cela demande une bonne dose d'empathie et d'humilité. Il faut être conscient de tout ce qu'on ne sait pas. Mais je pense aussi que c'est une grande force. Si je suis capable d'apporter des idées et des moyens techniques aux fermiers avec lesquels je travaille, c'est bien grâce à mon milieu social, grâce à la vie que j'ai eu la chance de mener.
Qu'est-ce que c'est pour vous, l'Afrique qui gagne?
Pour moi, l'Afrique qui gagne, ça veut dire changer de récit sur l'Afrique. Pourquoi l'Éthiopie est-elle encore associée à la famine et à la sécheresse? Parce que c'est tout ce qui a été donné à voir de notre pays. Maintenant, nous allons raconter quelque chose de différent. Nous allons mettre nos produits entre les mains des consommateurs du monde entier. Nous allons créer des chips de TEF, des biscuits salés de TEF, du porridge à base de TEF. Les Suisses sont connus pour leur chocolat, les Français pour leur vin. Chaque pays est réputé pour ses spécialités. Pour moi, c'est certain, le changement de regard sur l'Afrique peut passer par les produits alimentaires. Le business, c'est la meilleure façon d'y arriver.
L'Éthiopienne Sharon Méchal était au micro de Charlie Dupio. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Romain Dubrac, Antoine Prena. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, à la rubrique magazine, nous réécouter en podcast et nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Demain, 7 milliards de voisins, quand les familles éclatent, quelles conséquences sur les enfants? On parlera des fratries disloquées, quand les frères et sœurs sont séparés, comment se reconstruire? Et bien sûr, si c'est votre histoire, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. C'est le serveur WhatsApp également. Et vous pouvez poster des messages audio et écrits. À demain, les voisins et les voisines. Merci de votre fidélité du lundi au vendredi.